Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette soirée de la chaire Jean Rodin du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Donc, je suis Alain Thomasset, jésuite. Je suis titulaire de la chaire Jean Rodin, professeur de théologie morale dans la faculté de théologie. Cette chaire Jean Rodin est soutenue par la Fondation Rodin, dont je salue le président, Monseigneur Defoy, qui est là, évêque émérite de plusieurs diocèses, Sens, Reims et Lille, si je me rappelle bien. Il y a également Marie-Vonne Caillot du conseil d'administration de la Fondation, et puis Luc Dubrulle de la Cato de Paris, qui est par là, je ne sais plus, au fond. Voilà. Donc merci à ces représentants de la Fondation Rodin d'être là ce soir. Cette fondation, elle a pour visée de susciter et soutenir des recherches sur la charité au sein des institutions théologiques universitaires en France. Donc il y a une chaire Rodin ici à Sèvres, à la Cato de Paris, à Lyon, Angers, Toulouse et d'autres endroits. Au Centre Sèvres, cette chaire permet aussi la tenue d'un certain nombre de cours sur la pauvreté, sur la doctrine sociale de l'Église et un programme de recherche théologique à partir des témoignages des personnes en grande précarité. Voilà, nous avons un séminaire de recherche sur cette question. Voilà, comment cette parole des plus pauvres peut susciter en nous une réflexion théologique dans l'Église. Aujourd'hui, notre soirée s'organise autour du thème « Quelle place pour la parole des pauvres dans l'Église ?» À vrai dire, ce thème s'est en quelque sorte un peu imposé à nous à cause de la démarche diaconia de l'Église de France, que vous connaissez, menée depuis maintenant 3 ans, qui a donné lieu au grand rassemblement de Lourdes, où j'imagine un certain nombre d'entre vous étaient présents. Et nous avons eu plusieurs fois l'occasion de parler de cette démarche diaconia dans ces soirées Rodin. Lors du rassemblement de Lourdes, diaconia 2013, l'Église de France s'est interrogée sur la manière de remettre la fraternité et le service des hommes, c'est-à-dire la diaconie, et en particulier le service des plus pauvres, au centre de sa pratique. Et l'un des défis à relever aujourd'hui, et qui demeure devant nous après le rassemblement de Lourdes, c'est celui de la place des pauvres dans l'Église. Car il ne suffit pas de servir ou d'aider ceux qui sont démunis, encore faut-il écouter ce qu'ils ont à dire et donner une place à tous ceux qui ont une expérience unique que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas. Qu'est-ce que les pauvres ont à nous dire à ce sujet, sur la place qu'ils ont dans l'Église? En quoi est-ce une richesse pour nous tous, pour toute l'Église? Il peut arriver que nous disions « En fait, nous sommes tous pauvres ». Et en un sens, cela est vrai. Chacun de nous connaît ses faiblesses, ses drames intérieurs, ses souffrances. Il est essentiel que cette parole puisse être entendue aussi. Mais lorsque nous parlons ici de la parole des pauvres, nous évoquons une expérience spécifique qui est celle de la précarité économique et sociale. Cette parole vient de l'expérience de la misère que peu d'entre nous ont vécue. Elle nous rejoint, certes, et nous verrons en quoi elle peut nous rejoindre. Mais elle est porteuse d'une expérience qui est aussi une expérience de foi, qui, elle, est unique. Le rassemblement de Lourdes nous a donné, je crois, à goûter, la force et la joie qui peut jaillir de ces rencontres. Ces rencontres avec les personnes ayant connu la pauvreté, la précarité. Et nous avons aussi goûté la richesse de l'écoute et de la prise en compte de leurs paroles, notamment dans les forums. Nous voudrions aujourd'hui reprendre cette question de la place d'une telle parole dans l'Église, en donnant à nouveau la parole à ceux qui souvent se sentent exclus de la vie de nos communautés. Pour nous aider, des membres du groupe Place et Parole des Pauvres, ce groupe qui est intervenu à Lourdes, et qui est animé par Jean-Claude Caillot, ont accepté de venir dire le point de vue de ce groupe. Alors il y aura Geneviève Gimel, qui vient de Rennes, ils se présenteront tout à l'heure, Marcel Gestin, qui vient de Brest, ou à côté de Brest.
Ou à côté, à Brest.
voilà, la banlieue Brest. Et puis Laurence Drouin, qui vient de La Flèche. Ils ont accepté de nous dire ce qu'ils ont préparé longuement, de même qu'ils avaient bien préparé et longuement préparé leur intervention à Lourdes. Ils ont, pour nous, ce soir, préparé soigneusement ce qu'ils ont à dire. Et je vais leur laisser la parole. Mais avant cela, je vous donne simplement quelques indications sur le déroulement de notre soirée. Dans quelques instants, Jean-Claude Caillot, qui est volontaire d'ATD Quart-Monde et qui a animé le groupe Place et Parole des Pauvres pendant toute la démarche Diaconia, qui est aussi responsable de l'association Pierre d'Angle, nous présentera ce groupe, sa manière de travailler, ses objectifs. Puis les personnes ici présentes, Geneviève, Marcel et Laurence, voilà, je me trompe toujours dans les prénoms, mais ça va, elles vont m'aider, liront ce qu'elles ont préparé dans le groupe. Puis Laure Blanchon, qui est ici, religieuse ursuline, théologienne, enseignante au Centre Sèvres, et qui vient de présenter sa thèse de théologie de travail à partir de la parole des pauvres, une parole qui a été recueillie notamment dans la diaconie du Var à l'occasion des émissions de radio qui est organisée par cette diaconie, et aussi des témoignages du Sapel de Lyon. Elle réagira à ces propos et nous indiquera quelques enjeux théologiques pour l'Église d'une telle prise de parole. Nous aurons ensuite un bon temps pour échanger entre nous, échanger avec les paroles du groupe, et aussi témoigner des expériences que nous pouvons avoir les uns les autres dans nos paroisses, dans nos responsabilités, dans nos mouvements. Voilà. Je crois que c'est important, c'est une tradition de ces soirées que nous puissions vraiment partager, échanger nos expériences. Je laisse tout de suite la parole donc à Jean-Claude Caillot pour la présentation du groupe. Merci.
Bonsoir à tout le monde. Quelques mots sur ce groupe Place et Parole des Pauvres. Tout de suite pour dire que le titre n'a pas été choisi par le groupe. Sans doute aurions-nous choisi un autre titre. Il a été imposé imposé par les circonstances. Il se trouve que sur le tract qui présentait la démarche de Diaconia, il y avait en bas à gauche « Place et paroles des pauvres ». Et lorsque l'idée, j'y reviendrai dans un instant, a été émise qu'un groupe ainsi constitué de personnes dans la précarité et d'autres qui les rejoignent, lorsque ce groupe a été décidé, on a pris ce nom parce qu'ainsi, il venait pas de l'imagination de quelques-uns, mais il était déjà inscrit sur le papier, sinon malheureusement dans la tête des organisateurs. Alors donc, au début, ce groupe, c'est une douzaine de personnes, puis 21 personnes, dont 15 en situation de précarité. Et nous avons eu ensemble 27 journées de travail en 3 ans. 27 journées de travail. Mais d'abord, un peu d'histoire. L'histoire, c'est important parce que, comme ça, si l'histoire est bien établie, on ne dit plus absolument n'importe quoi sur ce groupe. Ce groupe doit sa naissance à un étonnement, à une question. Étonnement de Daniel Massiel, qui, en août 2010, pose cette question, je schématise, comment se fait-il que les personnes vivant dans la pauvreté ne soient pas inscrites au centre même de la démarche, Diaconia. Alors un mois plus tard, en septembre 2010, à une rencontre entre plusieurs responsables d'associations proches des personnes vivant la grande pauvreté, en septembre 2010, Daniel Massiel fait très concrètement la proposition qu'un groupe se constitue, réunissant des personnes en situation de précarité sociale, et quelques autres qui les rejoindront, pour contribuer à Diaconia. Et puis voici que Daniel Massiel devient coordinateur de la démarche diaconiale, en compagnie de la sœur Elisabeth Tchevietsky. Et pour ma part, je suis et je deviens l'animateur du groupe Place et Parole des Pauvres, dont la première rencontre a lieu le 5 novembre 2010. Cela fait 3 ans. Voilà pour l'histoire, schématique mais dont les grandes lignes sont justes. Sans doute voici que pour la première fois, mais je ne suis pas historien, voici que des personnes en situation de précarité sociale ont été présentes dans l'organisation d'un événement ecclésial. Pas pour raconter leur vie ou témoigner, mais pour contribuer à la pensée et à l'élaboration de diaconia. Voilà le « ce sans quoi » ce qui s'est passé n'aurait pas pu avoir lieu. Comment imaginer en effet l'Église s'engager dans une démarche autour de la diaconie sans que ceux qui connaissent le poids et la souffrance de la misère et de la précarité n'en soient partie prenante dès les débuts. Mais ce n'était pas acquis d'avance, vous l'imaginez. Les résistances étaient là, bien présentes, et notamment avec cet argument apparemment décisif, il y a bien d'autres pauvretés. Oui, certes, mais Alain en a parlé il y a un instant, mais toute souffrance n'est pas misère. Et donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais, c'est se donner quelque chance que la parole ne sera pas non plus refusée aux autres, à tous les autres. De ce point de vue, le très pauvre, celui qui vit dans la misère, est le garant de l'exhaustivité, le garant de l'universalité. Et il fallut bien 2 années pour que ce groupe acquière une forme de légitimité. Comment avons-nous travaillé ? Je voudrais répondre à cette question en soulignant 6 points, mais 6 points très rapides. Il faut d'abord dire qu'il n'y avait aucun tracé préalable. Ce que nous avons fait, rencontre après rencontre, nous a appris ce que nous cherchions. Le seul préalable, mais il est de taille, était que nous considérions que l'expérience de vie de ceux qui subissent la misère avait une fonction révélatrice, une capacité d'éclairer autrement le mystère de Dieu, du monde et des êtres humains. Que la parole des pauvres, c'est le préalable, était à la fois source et moteur, source de révélation, moteur de transformation. Ce que tu as caché, dit Jésus, ce que tu as caché aux sages et aux instruits, tu l'as révélé aux tout petits. Deuxième point, dans nos rencontres, nous avons toujours et d'abord travaillé à partir des mots. Nous nous donnions des sujets, la place et la parole des pauvres, l'Église, la fraternité, la diaconie, l'essentiel pour vivre aujourd'hui, le rôle de la fragilité, créer de la richesse. Il était alors important d'approfondir ce que nous mettions sous ces mots pour avoir une plateforme commune. Et à partir de là, avoir la liberté de laisser émerger, le verbe est important, de laisser émerger une pensée. Troisième point, il fallait que l'animateur puisse reconnaître et suivre au fur et à mesure les avenues qui s'ouvraient. Il ne fallait pas avoir dans la tête un parcours établi à l'avance. C'était une navigation à l'estime. Je prends un exemple. Nous avions une intervention à préparer sur le thème « Créer de la richesse ». Et voici que, pendant la préparation, l'échange se déplace, enfin, l'échange se concentre sur le pardon. J'avais le sentiment que nous n'étions plus dans le sujet. Mais il fallait suivre la route ainsi désignée, et qui enseignait combien le pardon est nécessaire pour créer des relations humaines qui soient riches, créer de la richesse en pardonnant. Quatrième point, il fallait en même temps être très attentif à ce que celui qui avait le moins de moyens puisse s'exprimer. C'est lui, celui qui a le moins de moyens. C'est lui la mesure. Comment faire ? Simplement lui donner la parole. La lui proposer, discrètement, sans rien obliger, mais ne pas l'oublier. Ce qui n'est pas si simple. Pour ce faire, lui donner la priorité. Et ce fut un travail dans le groupe. Cinquième point, bien sûr, vous l'imaginez, il fallait écouter. S'écouter les uns les autres. Écouter pour entendre. Mais attention, il y a plus important qu'écouter. Parce que pour entendre vraiment, il faut s'attendre à entendre quelque chose. On entend, on écoute tellement de gens dans la vie, on les entend même, mais sans jamais s'attendre à entendre quelque chose d'eux. Là encore, ce n'est pas si simple. Sixième point, enfin, il me faut préciser que tous les membres du groupe, sans exception, faisaient partie de groupes locaux, certains depuis 10 ans, 15 ans, voire plus, et donc avaient déjà une certaine habitude de l'échange, et notamment avaient la capacité de n'en pas rester à la plainte. Et rien n'est magique. Il ne suffit pas de réunir autour d'une table quelques personnes en situation de précarité pour que, tout d'un coup, la pensée émerge. C'est tout un travail. Un travail qui dit et annonce la naissance. Cela demande du temps, de la patience, et si l'on est trop rapide, c'est un avertissement que je donne à ceux qui seraient tentés de tout d'un coup fonder des groupes Place et Parole des Pauvres, ce qu'il faudrait, mais avec prudence, si l'on est trop rapide parce qu'impatient, on risque d'être déçu. Or, nous n'avons pas à être déçus. Nous avons à construire ensemble. Un dernier mot au sujet du texte que vous allez maintenant entendre. C'est un texte collectif. Il n'est pas si simple d'écrire un texte collectivement. Ce n'est pas le lieu maintenant de vous expliquer comment on a fait. Chacune de nos rencontres était enregistrée, puis décryptée. À partir de ce décryptage, il y avait une sélection, sinon ça aurait été trop long, en respectant la dimension chronologique de la prise de parole. Cela pour respecter la logique et la cohérence propre du groupe. Il ne s'agissait pas que moi, par exemple, l'animateur, je mette ma propre cohérence sur la parole du groupe. L'expérience que nous avons faite, c'est que une pensée émerge de chacun de nous, et c'est vrai pour nous tous dans cette salle. Une pensée peut émerger de chacun de nous lorsque nous sommes ensemble. Enfin, vous savez, le plus pauvre des pauvres a de la ressource si on lui permet de prendre sa place parmi nous.
Voilà, merci beaucoup à Jean-Claude Caillot pour cette explication et cet arrière-fond de cette parole que nous allons maintenant entendre. Merci de veiller à éteindre vos téléphones portables pour bien entendre cette parole. Voilà, je laisse la parole.
Bonjour à tous. Voilà. J'ai du mal à parler. Bon, je vais me reprendre. Nous parlons au nom du groupe Place et Parole des Pauvres. Le 10 janvier 2011, au début de Diaconia, il y a eu une conférence de presse où notre groupe a pris la parole. Une manière de nous présenter, c'est de reprendre quelques lignes de ce que nous avons dit ce jour-là. Notre but dans ce groupe de travail, Place et Parole des Pauvres, c'est dans la préparation de Diaconia, il y ait des personnes qui ont l'expérience de la précarité et de la pauvreté. Nous voulons travailler ensemble pour trouver un langage compréhensible de tous. Aussi bien pour ceux qui participent à la messe dans l'église que pour ceux qui font la manche devant. C'est important qu'on puisse dire les choses avec nos mots à nous. On n'est pas tous instruits. Quand nous nous sommes réunis, quelqu'un dans le groupe a dit « Ouvrez les yeux, écoutez les plus pauvres dans l'église. » Et quelqu'un d'autre, « On a autant besoin des pauvres que des autres. » Il faut donner envie aux gens d'avoir cette rencontre. Il faut oser dire ce qu'on vit. Et ose dire, aussi dire ce qu'on est. Nous voulons réfléchir ensemble à ce qui manque pour que chacun ait sa place, construire ensemble quelque chose qui nous dépasse.
Bonsoir. Maintenant, voici ce que nous avons préparé pendant nos deux dernières réunions de travail sur le sujet de ce soir. Au sein de l'Église, on peut avoir la parole, et c'est comme partout ailleurs, ça ne suffit pas de parler, il faut être écouté. Des fois, on peut parler avec un prêtre, mais souvent dans l'Église, on n'est pas écouté. On n'est pas entendu. La parole des pauvres est laissée de côté. Il y a trop de gens qui savent, qui connaissent tous, qui connaissent tout. Alors, on ne peut pas parler, parce qu'on ne croit pas qu'on a des choses à dire, et encore moins des choses qui peuvent intéresser les autres. Par exemple, les personnes qui veulent aider, elles disent souvent « Moi, je sais. » Mais si elles prennent le temps d'écouter, elles disent « Ah ça, je ne savais pas. » Dans le groupe « Place et paroles des pauvres », on pouvait avoir confiance parce qu'on pouvait parler sans être jugé, en étant respecté. Être écouté sans être jugé, c'est le plus important. L'écoute des autres, c'est primordial, parce que ça nous a permis de dire ce qu'on avait envie de dire. Quand on est écouté, et aussi quand on écoute, cela aide à avancer, et ça permet de vivre avec les autres. Alors que pendant près de 30 ans, je n'ai vécu pas ce qu'il y avait mes enfants. Le groupe m'a aidé à croire que j'existais et que j'étais quelqu'un quand même. Je me suis aperçue qu'en écoutant les autres, j'ai découvert des trésors qui ne sont pas à perdre. Les autres nous permettent de découvrir Dieu parce que Dieu est entré dans notre vie d'une manière différente pour chacun. Et chaque chemin qu'a pris Dieu nous dit un peu de Dieu. Écouter, ça sert à apprendre. En prenant le temps d'écouter les autres, on apprend beaucoup de choses, même sur soi-même. Il faudrait apprendre à tout le monde à partager en écoutant et apprendre comment recevoir ce qu'on dit.
Je crois que ce groupe nous a donné confiance, nous a donné la possibilité de nous solidifier les uns et les autres et de nous dire. Finalement, on a notre mot à dire. On a nos possibilités de pouvoir parler avec les autres. Le groupe, ça m'a fait grandir dans ma foi au fur et à mesure de nos rencontres. Ça m'a fait un bond en avant vers l'Église. Écouter les autres, ça m'a aidé à aller plus vers les autres. Moi, j'ai l'impression que l'Église s'ouvre davantage. C'est peut-être le pape François, le fait qu'il soit proche des pauvres, qu'il soit à l'écoute des pauvres. Peut-être que ça a beaucoup d'importance. Parce que la pauvreté, elle existe. Il faut qu'on sache qu'elle existe. Et quand on rend la parole aux pauvres, comme on l'a fait à Lourdes au mois de mai, ça veut vraiment dire que le monde, il faut qu'il bouge. Et les gens, il faut quand même qu'ils nous écoutent aussi, même qu'on est pauvre. On dit beaucoup, même dans le groupe Place et Parole des pauvres, on est pauvre mais on a des richesses. Quand j'entends ça, ça me met mal à l'aise parce que je me dis « À quoi ça me sert mes richesses si personne n'en veut ? À quoi ça sert que je sois intelligente si personne ne veut écouter ce que je peux avoir à dire ?» Quelquefois, on dit que tout le monde peut faire quelque chose dans son paroisse, dans son diocèse. Mais moi, je ne peux rien faire si je ne suis pas d'abord soutenue, parce que je m'effondre tout de suite si on me dit « Tais-toi, t'as pas à parler ». Au sujet de la place des pauvres, c'est celle qu'on veut bien nous donner. Et si on ne nous la donne pas, si on ne nous dit pas « j'ai besoin de toi », j'ai besoin de tes qualités, eh bien, on n'a pas de place et on ne peut pas s'en sortir. En fait, quand on ne donne pas leur place aux pauvres, on se prive de toutes leurs qualités et de tout ce qu'ils sont capables de faire. Quand je vois des gens qui sont surchargés et qui ne veulent pas qu'on les aide parce qu'ils sont sûrs que les autres feront bien moins qu'eux, eh bien, la société, elle se construit mal parce que celui qui pense qu'il sait faire, il est submergé. Et puis, à côté, l'autre, il est les bras vides alors qu'il pourrait permettre à la société de mieux fonctionner. Une place, on en a tous une malgré tout, puisqu'on est vivant, qu'on est sur Terre. On a de la place là où on est en ce moment, voilà. Alors, qu'est-ce que cet endroit-là ? Est-ce que de cet endroit-là, je suis entendue ? Si je suis au fond d'un puits en train de barboter, comment de cet endroit-là je peux m'exprimer ? L'être humain recherche ce qui l'anime vraiment, son désir. L'essentiel, c'est vivre. Et c'est déjà une bonne raison d'être heureux. C'est l'accueil de l'autre avec ses difficultés et ses différences qui est le plus important. Nos paroles ensemble portent une grande parole par le vécu différent de chacun d'entre nous. On met les pauvres dans des labyrinthes de désolation, se retrouvant sans rien et dénués de tout. Ils trouvent un trésor au plus profond d'eux-mêmes, c'est Dieu, et cela leur donne la vraie richesse pour avancer. C'est peut-être dans le dénuement le plus total que se trouve la vraie richesse.
Il faut libérer la parole. Il faut permettre aux gens de parler. Et il faut les écouter. Parce que si on n'est pas écouté, on n'a pas de parole. C'est parce qu'on n'a pas été écouté qu'on n'arrive pas à parler. Il faut prendre le temps de libérer la parole de ceux qui ne l'ont jamais. L'important de cette parole, c'est qu'on va dire selon les dons que l'on a reçus. Et on n'a pas reçu les mêmes dons que les autres. Et puis, on va parler selon notre expérience. Et on n'a pas l'expérience des autres. Et les autres n'ont pas notre expérience. Donc, c'est important que cette parole soit libérée. Refuser de donner la parole à l'autre, c'est lui refuser d'exister. La parole, ça sert à mettre des points et à permettre la rencontre. Des ponts et à permettre la rencontre. Si on ne prend pas le temps d'écouter et d'entendre, on est tous aveugles. Il faut laisser les plus pauvres s'exprimer sur ce qu'ils ont à dire. Si Dieu nous a créés avec la parole, c'est bien pour qu'on puisse s'exprimer, pour qu'on dise tout haut ce qu'on pense et de ne pas nous laisser faire quand on nous dit qu'on n'a rien à dire, car on a tous quelque chose à dire. On ne peut pas nous laisser dans le silence. Il faut qu'on parle pour faire avancer les choses.
Maintenant qu'on a ouvert les portes de l'église à Diaconia, il faut les laisser ouvertes. Et la question que ça pose, comment les gens vont y être reçus? Il ne suffit pas que les portes soient ouvertes. En fait, c'est un chemin semé de ronces et d'épines. Il faut travailler ça, l'accueil. C'est la même chose que l'écoute. Il faudrait que dans l'église, on soit un peu plus attentif aux plus petits. Il faut qu'ils soient mieux accueillis, parce qu'il y a des gens qui ont un drôle de regard sur nous. Pas seulement ouvrir les portes, mais aller plus loin. C'est bien beau de dire qu'on ouvre les portes, mais il faudrait être accueilli et remis en confiance. Cela fait partie de notre mission de chrétien. Tout le monde a une mission, chacun sa façon, mais tout seul, on ne peut pas y arriver. Entre les différentes communautés, il faut qu'il y ait des liens, créer des liens pour faire les choses ensemble. Pour conclure, voici ce que nous disions dans une intervention à la fin du rassemblement Diaconia à Lourdes, dans la grande basilique. Ce qu'on a appris dans ce groupe, place et paroles des pauvres, c'est que Dieu est vrai. Ce n'est pas vrai parce que je me force à croire. Mais ce sont mes frères qui me disent que c'est vrai. Et les mots confiance, d'espérance, prince, un sens qui deviennent vivants en moi parce qu'ils sont vrais dans la vie des autres. J'ai besoin de mes frères et sœurs pour découvrir que l'Évangile, c'est vrai. Et j'ai en particulier besoin de ceux qui passent par des chemins plus douloureux, qui passent par des chemins plus douloureux. Et nous terminons par une question. La question, c'est comment dire l'essentiel? Alors, trois petites phrases. J'ai besoin de toi. J'ai confiance en toi. Alors, viens, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà pourquoi on est là, pour qu'il y ait un changement.
Merci beaucoup pour cette parole. Je retiens deux phrases, peut-être. Il ne suffit pas de parler, encore faut-il être écouté, vous nous avez dit. Et puis, avec Diaconia, l'Église a ouvert les portes, mais ça ne suffit pas d'ouvrir les portes. Encore faut-il être accueilli. Et vous dites, c'est comme la parole. Merci. Je laisse la parole maintenant à Laure Blanchon qui, à partir de ce texte, va nous donner quelques éclairages, quelques réactions comme théologienne de l'enjeu de cette parole que nous venons d'entendre pour nous, pour l'Église.
Bonsoir. Merci beaucoup à Geneviève, Marcel et Laurence pour ce qu'elles viennent de nous dire de la part du groupe Place et Parole des Pauvres. Pour ma prise de parole de ce soir, je vais procéder en deux temps. D'abord, je partagerai quelques éléments découverts en analysant les paroles que nous venons d'entendre. Et puis, j'élargirai la perspective en réponse à la question, qui est le titre de la soirée de ce soir, « Quelle place pour la parole des pauvres dans l'Église ?» Je commence donc par un premier moment à l'écoute des mots du groupe Place et Parole des Pauvres. D'abord, quelle est la dynamique d'ensemble de leurs textes? On peut repérer trois temps dans la parole que nous venons d'entendre. Un premier temps qui répondrait à la question « Quelle est la visée de la constitution de ce groupe ?» La visée telle qu'elle a été énoncée à la création du groupe en novembre 2010 et de trouver un langage pour rendre la bonne nouvelle accessible à tous. Et cela comment? En faisant une place à ceux que l'on a tendance à ne pas écouter et à oublier dans la société et l'Église, et qui ont, de ce fait même, une expérience unique, et en travaillant ensemble. Le deuxième temps de leur prise de parole répondrait à la question « Quelles conditions pour que les pauvres et leurs paroles aient une place ?» Le texte énonce plusieurs obstacles et indique les conditions qui permettent que la parole des pauvres se fasse entendre dans l'Église. La parole demande à être écoutée pour être reçue, entendue. La parole des plus pauvres est rendue possible par le groupe. Être soutenu, désiré et appelé permet de prendre sa place et de parler. Prendre le temps pour libérer la parole des pauvres est indispensable. Et poursuivre le chemin initié par Diaconia peut se faire en travaillant l'accueil et en tissant des liens pour faire des choses ensemble. Le troisième temps de leur texte répondrait à la question « Que révèlent les pauvres à l'Église ?» Dans les mots conclusifs repris de Lourdes, nous avons entendu trois éléments. Tout d'abord, l'Évangile dans sa vérité est reçu des autres, en particulier des plus éprouvés. Ce qui tisse l'Église, c'est de reconnaître l'autre, de lui dire la confiance qu'on a en lui et d'appeler chacun pour faire tous ensemble. Et le troisième point, faire place à la parole des plus pauvres, va permettre qu'il y ait un changement. Voilà la dynamique d'ensemble de leurs textes. Je reviens sur l'ouverture et sur l'envoi. L'ouverture tout d'abord. Cette ouverture qui dit la visée de ce groupe. Je vous relis quelques phrases. Notre but dans ce groupe de travail Place et Paroles des Pauvres, c'est que dans la préparation de Diaconia, il y ait des personnes qui ont l'expérience de la précarité et de la pauvreté. Nous voulons travailler ensemble pour trouver un langage compréhensible de tous. Fin de citation. Il s'agit donc de faire place à des personnes qui ont l'expérience de la précarité et de la pauvreté, c'est-à-dire ceux que l'on a tendance à oublier dans la société et dans l'Église, spécialement dans les instances de décision et de réflexion. Faire cette option, c'est reconnaître qu'on a autant besoin des pauvres que des autres. Il leur est donc demandé de constituer un groupe de travail qui contribue à la préparation de Diaconia et dans ce lieu, d'oser dire ce qu'on vit et oser dire qui on est, de faire entendre l'expérience singulière qui est la leur en vivant de la misère. Vivre dans la misère, ça veut dire quoi? Dans un texte du groupe, du 14 janvier 2012, il est dit, je vous lis ce qu'ils avaient dit, « Tout le monde a ses souffrances, ceux qui ont de l'argent comme ceux qui n'en ont pas. Mais ce n'est pas vrai qu'ils ont la même vie que nous. Dormir dans la rue, avoir peur quand on attend un enfant, que l'assistante sociale vienne pour le prendre et le placer, avoir honte parce qu'on est humilié par le regard, tout le monde ne le vit pas. Tout le monde n'est pas pauvre. » Fin de citation. Ainsi, la précarité touche des dimensions fondamentales de la vie. Tenir debout dans ces conditions, demeurer vivant, façonne dans la personne une expérience singulière. Donc il va s'agir de travailler ensemble pour trouver un langage compréhensible de tous. Un peu plus loin, il est dit, nous voulons réfléchir ensemble à ce qui manque pour que chacun ait sa place, construire ensemble quelque chose qui nous dépasse. La visée est de chercher et trouver un langage accessible à tous, de ne pas perdre la moitié des destinataires de l'Évangile, de construire ensemble quelque chose qui nous déplace, qui nous dépasse, une Église où chacun ait sa place et où chacun puisse comprendre ce qui est dit et en être partie prenante, même s'il n'est pas instruit. Le texte indique que cette visée d'une bonne nouvelle pour tous est atteinte lorsqu'on donne la place et la parole aux plus pauvres dans l'Église. C'est-à-dire quand on veille à ce que tous participent à l'élaboration de cette parole destinée à tous. Il y a donc un lien intime entre ce qui va être dit, donc une bonne nouvelle pour tous, et la manière de l'élaborer, élaborer en faisant place à tous et en travaillant ensemble. Même si ce travail ensemble est resté assez incoatif durant la préparation de Diaconia, les plus pauvres ont maintenu l'expression de cette aspiration et un tournant s'est opéré lors du rassemblement à Lourdes, faisant expérimenter que collaborer tous ensemble est bon à vivre et fécond, que cela permet à tous de voir et d'avancer. Regardons maintenant la fin du texte, ce qui a été repris de la prise de parole à Lourdes en mai dernier. Je vous relis quelques-unes des lignes qui nous ont été lues. Ce qu'on a appris dans notre groupe Place et Paroles des Pauvres, c'est que Dieu est vrai. Ce n'est pas vrai parce que je me force à croire, mais ce sont mes frères qui me disent que c'est vrai. Et les mots de confiance, d'espérance, prennent un sens et deviennent vivants en moi parce qu'ils sont vrais dans la vie des autres. J'ai besoin de mes frères et sœurs pour découvrir que les évangiles, c'est vrai. Et j'ai en particulier besoin de ceux qui passent par des chemins plus douloureux. Ainsi, fin de citation, hein. Ainsi, le groupe Place et Paroles des Pauvres a permis aux participants de découvrir que l'Évangile, dans sa vérité, est reçu des autres. Si j'écoute les autres, leur vie, qui atteste cette vérité de l'Évangile, devient un point d'appui pour ma propre foi et me fait connaître que Dieu est vrai. Quelle est cette vérité que leur vie annonce ? Le paragraphe finit en disant que cette vérité de Dieu se dit tout particulièrement par, disent-ils, ceux qui passent par des chemins plus douloureux. J'ai besoin d'eux pour connaître Dieu, pour découvrir l'Évangile. C'est-à-dire que Dieu se dit de manière spécialement forte à travers ceux qui sont dans des chemins de mort et qui parviennent à passer par ces chemins, à les traverser, c'est-à-dire ceux qui vivent l'expérience pascale. Le mystère pascal se dit à même leur vie. Par leur existence, ils permettent à Dieu d'annoncer au monde que la vie est plus forte que la mort, et ils donnent crédibilité à la parole de Dieu. Ils poursuivent ensuite en disant, je relis ce qu'ils nous ont dit, comment dire l'essentiel, peut-être avec trois petites phrases. J'ai besoin de toi, j'ai confiance en toi, alors viens, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Voilà pourquoi on est là, pour qu'il y ait un changement. Fin de citation. Ainsi, ce qui donne la vie, c'est de reconnaître le besoin que l'on a de l'autre, de lui dire la confiance qu'on a en lui et d'appeler chacun pour faire ensemble. Cette manière de vivre les relations conduit au plus fondamental de la vie humaine, à ce qui éveille la vie et l'alimente en lui donnant un sens. Si l'Église choisit de faire place aux plus pauvres, elle va être conduite vers cet essentiel et entrer en changement, selon le mot du groupe. Appeler chacun, lui faire confiance en vue de faire ensemble pour avancer. Cela va susciter des libertés humaines, tisser du lien entre les personnes et faire prendre consistance au corps ecclésial. Cette structure d'appel de chacun pour constituer le corps convoqué par Dieu, l'Ecclésia, rappelle la dynamique de l'Alliance biblique. Voilà pour le premier temps de mon intervention. Dans un deuxième temps, maintenant, je prends un peu de distance avec le texte du groupe Place et Paroles des Pauvres, tout en me laissant orienter par la direction qu'il nous suggère. Quelle lumière ce texte nous donne-t-il pour comprendre quelle est la place de la parole des pauvres dans l'Église ? Et non seulement de la parole des plus pauvres, mais de leur personne. Aurait-il une contribution singulière à apporter ? À partir de ce que nous avons vu dans l'analyse, on sent quelque chose poindre, un horizon se dessiner. Comment pourrait-on le nommer ? Il me semble que l'on peut parler d'une diaconie de la vérité, d'un ministère de vérité exercé par les plus pauvres. Un ministère au sens d'un service et d'un service investi d'une certaine autorité. Cette autorité se fonde non pas sur un savoir livresque, mais dans une expérience de vie qui conduit au plus fondamental. Comment caractériser ce service de vérité ? En quoi consiste-t-il? Les plus pauvres font œuvre de révélation du cœur de la foi, de l'Évangile, en particulier du mystère pascal. Ils en sont révélateurs par leur vie. Leur expérience singulière est de tenir debout au cœur de la traversée de chemin de précarisation, de douleur, d'abandon et de mort. Comment les plus pauvres exercent-ils cette diaconie de la vérité? Ils ont une manière particulière d'exercer ce service d'Église. Ils sont révélateurs de la vérité de Dieu en appelant et en suscitant des collaborations. Le texte multiplie les mots comme « ensemble », « par les autres », « pas tout seul », « recevoir des autres », etc. Les plus pauvres perçoivent qu'ils exercent leur mission grâce aux autres, en sollicitant des collaborations et un travail ensemble. Les autres ne sont donc plus perçus comme des concurrents qui seraient à éliminer, mais ceux dont j'ai radicalement besoin pour advenir à la vie, pour y trouver du sens, pour découvrir Dieu vrai et le rencontrer. Si les pauvres exercent ainsi leur mission, vers quoi cela conduit-il? Cela fait surgir une manière de vivre ensemble qui n'oublie pas d'appeler chacun et qui met en travail les modes relationnels pour apprendre à écouter, à accueillir, à se recevoir d'autrui, à se laisser évangéliser par lui, finalement pour entrer dans le style relationnel de Jésus. Ainsi, leur contribution met le corps ecclésial en travail vers quelque chose qui nous dépasse, selon leurs mots. Sans doute est-ce le royaume promis par Dieu. Les plus pauvres sont des aiguillons pour faire avancer vers la communion eschatologique promise pour la fin des temps, pour la faire advenir un peu dès maintenant. Leur parole a une dimension prophétique, dérangeante, qui provoque un changement, qui n'est pas d'accord pour qu'on n'ait pas besoin de certains. Les plus pauvres, si nous les écoutons, peuvent donc nous mettre sur la voie d'une figure ecclésiale un peu autre. Ceux d'entre nous qui ont participé au rassemblement Diaconia ont pu en goûter quelque chose dans l'expérience vécue à Lourdes. Vers quelle figure ecclésiale oriente-t-il? Ils nous mettent sur la voie d'une église où il fait bon vivre ensemble. Une église hospitalière, ouverte, attentive à tous, appelant chacun, soucieuse du respect de chacun, à commencer par les plus fragilisés. Une église désireuse de recevoir les dons de chacun et de s'enrichir de l'échange des expériences uniques et singulières des uns et des autres. Une église qui reconnaît dans les liens humains des lieux cruciaux pour accéder à la vérité, au sens de la vie, devenir vivant. La mission de l'Église devient alors de vivre un tel style de relation entre ses membres et de mailler avec toute la société pour que cela fasse tache d'huile. Elle devient évangélisatrice par la forme, le style relationnel qu'elle prend en son corps, et cette forme atteste la vérité de sa parole. Parole et actes des baptisés sont alors en cohérence et concourent ensemble à annoncer l'Évangile avec une force nouvelle. Si tel est le cas, à quoi cela nous appelle-t-il? Cela nous appelle d'abord à une prise au sérieux des pauvres et de leurs paroles. En particulier lorsque celle-ci a été élaborée comme celle du groupe Place et Paroles des Pauvres. Ce groupe est un groupe de travail. On pourrait dire un groupe de mise en travail du corps ecclésial. Mise en travail au sens d'enfantement. L'Église peut entrer en travail si elle perçoit que Dieu s'adresse à elle par la chair des hommes de ce temps qui passe par des chemins creux. Et si elle apprend à reconnaître en eux une lettre du Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non avec des tables de pierre, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur leur cœur, pour parler comme saint Paul. Pourtant, nous ne devons pas nous faire illusion. Recevoir cette lettre du Christ, faire place aux plus pauvres, cela n'a rien de facile. Prendre ce chemin constitue un combat. Il n'est pas simple de choisir de faire place à autrui, surtout lorsqu'il nous désarçonne par ses manières différentes des nôtres. Aussi, ce chemin nous mettra aux prises avec nos réflexes d'exclusion et nos vieux démons, jusqu'à ce que nous soyons tous simplifiés et redonnés à la fraternité en Christ. Dès lors, comment nous engager sur ce chemin? Comment concrètement prendre au sérieux les pauvres, les écouter et les recevoir? Certaines pistes mises à jour par le groupe se proposent à nous. Entrer en apprentissage à partir de l'écoute des autres. Créer des conditions d'hospitalité à la parole d'autrui et de mise en confiance. Prendre le temps de libérer la parole de chacun. Créer des liens, permettre la rencontre, faire des choses ensemble. En s'engageant sur ce chemin, la communauté ecclésiale reçoit les conditions pour advenir à sa vocation, pour advenir à elle-même. Elle entre en genèse. Elle apprend à devenir comme un sacrement de la communion trinitaire au cœur du monde. Merci.
Voilà, merci Laure pour cette première lecture. Je retiens peut-être trois points de ce que tu as dit. Une parole qui nous révèle quelque chose du mystère de Dieu dans nos vies. Une parole qui touche à l'expérience pascale, la traversée de la mort, que ceux qui ont vécu la misère ont vécu de manière particulière, qui ont su tenir debout. Je crois que tu as beaucoup insisté là-dessus. Peut-être un deuxième point, c'est l'importance des relations, et vous en avez beaucoup parlé, hein, le fait d'être en groupe, le fait d'être mis en relation avec d'autres, c'est ça qui nous fait vivre, et c'est ça qui nous permet de croire. Voilà, ça je crois que c'est très important pour nous, chacun, et on en a l'expérience, mais voilà, je crois que les plus pauvres nous disent combien cette relation est vitale. Et puis le troisième point peut-être, c'est voilà, ça nous ouvre aussi à une autre figure d'église, une église hospitalière, une église où on est heureux de faire des choses ensemble avec des gens différents et en particulier avec les plus petits. Et puis tu nous as donné quelques pistes aussi de pratiques. Voilà, merci. J'avais envie de demander à Geneviève, Marcel et Laurence si elles avaient envie de réagir. Voilà. Laurence.
Oui, si. Parce que c'est ce qu'elle disait, si, c'était intéressant, parce que ce qu'on a vécu dans le groupe est important, l'écoute. Mais surtout, on s'est écouté les uns aux autres, mais on s'est dit à un moment, eh ben, ça serait bien que les autres nous écoutent. On a voulu, par la suite, on a rencontré dans nos paroisses des prêtres, c'est vrai. Donc, il y en a qui ont été à l'écoute, d'autres pas. Mais moi, j'ai rencontré un prêtre qui a été à l'écoute.
Avant, je le voyais à la messe, il me serrait la main. Et puis après, diaconia, un jour, il m'a arrêté dans la rue. Et il m'a dit, vous savez, hein, diaconia, c'était super. Et puis il a parlé avec moi, sauf qu'il ne faisait pas avant. Et puis aujourd'hui, disons, c'est plus facile de parler, parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré 2-3 fois mon évêque, dans la Sarthe, Monseigneur Le Sceau, et j'ai parlé avec lui. Avant, je n'aurais jamais parlé comme je l'ai fait à un évêque, je n'aurais pas osé, je l'aurais regardé de loin, mais c'est tout. Mais voilà.
Ça, c'est l'effet de diaconia.
Ah oui, 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 parce que je lui ai dit, lui était là, Lourdes, à diaconia, et il a trouvé ça très beau, ce qu'on a dit. Et je lui ai dit, c'est bien, ce qu'on a dit, mais il faut aller plus loin. Mais sans les évêques de nos régions, de nos... Oui, voilà. Sans les prêtres aussi, mais surtout sans les évêques. Hein, on ne peut rien faire. Je lui ai dit, nous seuls, on ne peut rien faire, mais tous ensemble, dans l'Église, il y a vraiment une écoute qui peut se faire. Parce que on a beaucoup parlé à Lourdes d'ouvrir les portes, mais après, on s'est dit, mais oui, mais comment on va être reçu dans l'Église? Comment les personnes en difficulté, elles doivent être reçues? Ça, c'est important. Parce que toi, tu l'as vécu, Marcel.
Alors, Geneviève, on a envie de réagir.
Oui, moi, je voulais réagir au sujet de l'écoute de la parole. Il y a une expérience que presque tout le monde fait, c'est que sous l'effet d'une grosse émotion, on n'a plus de parole ou on a une parole qui devient confuse. Je pense que c'est une expérience que vous avez pu faire. Et souvent, les pauvres se sentent tellement peu écoutés dans des choses importantes qu'ils finissent par ne même plus avoir de parole pour des choses simples. Une dame me disait un jour, j'étais des années sans parler. J'arrivais à dire, je veux une baguette, mais ça s'arrêtait là. Elle n'arrivait pas à dire autre chose parce que quand elle avait eu des choses graves à dire, elle n'avait pas été écoutée. Et donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention et de montrer que la moindre parole, on la prend en compte pour permettre aux gens de retrouver la parole.
Bien sûr qu'on retrouve la parole. Bon, moi, je sais que si j'ai retrouvé la parole, d'abord, c'est grâce à Dieu, c'est grâce au Père Joseph Brzezinski que j'ai retrouvé la parole. Hein, je crois que il me l'a donné un jour, mais non, je ne lâche plus. Hein? Voilà. Hein, mais je crois que si j'avais pas rencontré des gens qui vivaient dans la précarité, dans la pauvreté comme moi, je n'aurais peut-être pas repris la parole non plus. Je n'aurais pas pris confiance en moi. Maintenant, c'est à moi d'aller. Comme je dis, je vais chercher les autres. Et si ensemble, on peut faire quelque chose, quand on a vécu en bas, quand on a grimpé un petit peu, on peut faire grimper les autres. C'est ça notre but. Mais pour se dire que, comme on dit, si c'est un ensemble, il peut être plusieurs. Dans l'Église, il peut être plusieurs aussi. Si on n'est pas ensemble, si on ne se tient pas la main, eh ben, on n'arrivera à rien. Tout le monde a besoin de quelque chose. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on a toujours besoin de quelqu'un. Parce que on a toujours besoin d'un boulanger, on a toujours besoin d'un boucher, on a toujours besoin de quelqu'un. S'il n'y a plus de boulanger pour faire le pain, on fait comment? Quand on ne sait pas le faire, eh ben, il faut bien quelqu'un, hein, il faut bien trouver quelqu'un. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et dans l'Église, comme disait Jean-Claude qui nous a fait, si on est architecte, comment construire une église? Moi, je lui ai dit, ben, je veux une église ronde avec l'hôtel en forme de rond, avec tout le monde autour, comme ça tout le monde sait. À table, et surtout, ne mettez pas de piliers pour que personne puisse se cacher.
Tout à l'heure, en préparant un peu la réunion, là, tu me disais, après diaconia, il y a eu des choses qui ont changé.
Moi, ça a beaucoup changé ma vie au niveau du diocèse, au niveau de ma paroisse. Bon, avant, j'osais pas. J'allais. Dans les prêtres, j'allais dans les réunions, bon, au sein de Saint-de-Pierre-d'Angle, j'allais comme ça. Mais au sein de ma paroisse, je prenais pas beaucoup de responsabilités. Maintenant, je fais la permanence à la maison de la paroisse. Bon, ma fille qui n'abordait pas du tout l'église, qui venait pas avec moi nulle part, Bon, elle a repris le chemin de l'église, elle a repris la joc, grâce à Diaconia. Elle me dit, oui, c'est plus facile d'aller à la messe, mais la messe qu'elle a vue à là-bas, à la basilique de Lourdes, c'est pas la messe qu'on a dans le diocèse. Alors maintenant, je lui ai dit, tu vois, on a fait des objets avec des cartons très très bien, c'était animé. Alors maintenant, notre messe chez nous, bah, c'est animé aussi. On fait pareil qu'à Lourdes. C'est plus joli, c'est plus dynamique et c'est plus accueillant.
Voilà. Voilà. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez vous aussi réagir, poser des questions, témoigner d'une expérience. À vous la parole. Il y a un micro ici. Est-ce que je vais réussir à faire marcher? Oui, ça s'allume. Vous avez le temps de réfléchir comme ça. Voilà, il y a déjà Stéphane là-bas.
Stéphane Le Saff, j'étais dans la communauté de Magdala à Lille. Et je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. Il y a deux choses à laquelle j'ai pensé pendant votre intervention. C'est comment Jésus-Christ était rentré en relation avec la Samaritaine, c'est en lui demandant un service. Et ça, je crois que c'est très important d'oser demander un service à quelqu'un. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le besoin encore de conversion de nos chers prêtres. Et j'avais été très, très impressionné comment Pierre Barque connaît aussi Alain Thomassé, un dimanche après-midi, avait dit à la communauté de Magdala, vous êtes ici chez vous, c'est-à-dire dans l'Église. Et ça, je crois que cet accueil de certains, il faudrait que d'autres suivent cet exemple.
Oui, il y a certainement... Daniel pourra peut-être dire quelque chose là-dessus tout à l'heure.
Les pauvres, ils ont toujours existé. Moi, personnellement, je vois ça comme ça. C'est nous-mêmes, nous devons changer. Nous savons très bien que notre Seigneur a bien dit, ou notre grand apôtre Paul a bien dit, Dieu grandit et moi diminue. Si nous, par la prière, par l'Eucharistie, par toutes sortes des témoignages de Dieu, vivre avec Dieu tout le jour, ça va tout naturel, on trouvera toujours le mot juste, simple pour nos pauvres, parce que nous sommes des pauvres de plus, parce que vous avez bien dit. Moi, personnellement, c'est nous devons changer, nous les chrétiens, nous devons plus mettre le Christ dans notre vie pour projeter le Christ aux autres, pour témoigner plus aux autres, pas par les paroles, par nos gestes, parce que le Christ vit dans nous, donc tout ce qui nous de gestes, ça c'est le Christ. Pardonnez-moi,
merci.
Je voulais voir d'autres choses, mais je vais donner des paroles aux autres aussi.
Merci. D'autres réactions ou questions? Voilà, il y a une question ici.
Je témoigne d'une église oubliée. C'est-à-dire que je vois une perspective qui est assez rare. Non pas de personne, non pas de société, mais d'église. Une église dont l'histoire est oubliée, une église qui est en train de disparaître, donc dont on parle peu, une église qui est persécutée. Et à mon avis, ce que vous dites de l'attention aux personnes serait très important dans le dialogue interecclésial. Il y a des synodes où les évêques de ces églises sont suffisamment surveillés pour qu'on leur demande auparavant leur intervention afin éventuellement de corriger. Il y a des églises où, par exemple, je parle de d'une tradition syriaque qui n'est jamais citée ni dans le concile, ni dans le catéchisme de l'Église catholique. Pas une référence au père syriaque, etc. Je pourrais donner là tout un témoignage, mais qui n'est pas souvent perçu quand on parle de pauvreté. Souvent, on parle de pauvreté économique, de pauvreté sociale, de maladie, etc. Mais là, il y a une pauvreté ecclésiale d'une Église passée sous silence.
Voilà, c'est sûr que les pauvretés renvoient à d'autres pauvretés aussi, à d'autres situations oubliées, importantes. Et je sais qu'il y a aussi dans la salle des gens qui ont des expériences de groupe, de rencontres avec des personnes en précarité. Voilà, peut-être Alain peut nous dire quelque chose là. Voilà. C'est pas si simple, hein, comme l'a dit Jean-Claude Caillot, vouloir créer un groupe de parole avec des personnes qui ont connu la misère ou la précarité, c'est difficile, vous l'avez dit aussi vous-même. C'est pas simple non plus de s'écouter. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une expérience intéressante à Versailles là.
Oui, je suis donc diacre dans le diocèse de Versailles. Et depuis presque une quarantaine d'années maintenant, il y a des équipes fraternelles qui sont nées dans ce diocèse, qui sont en fait des lieux de prière autour de l'Évangile, qui rassemblent des personnes qui vivent des précarités matérielles, aussi des personnes qui sont malades, et également des personnes qui sont immigrées depuis plus ou moins longtemps dans notre société, et qui rassemblent ces personnes avec des personnes qui leur sont solidaires. Et cette expérience de vie que nous avons depuis 40 ans, je ne suis pas concerné pour les 40 ans, mais cette expérience est en train de s'accroître, puisque lors du synode récent qu'il y a eu dans le diocèse, notre évêque Éric Aumônier nous a encouragés à aller plus loin et à que dans chaque paroisse puisse exister de tels groupes qui sont en fait un peu des sas permettre à des personnes qui sont complètement exclues de l'Église ou qui se sentent complètement exclues de l'Église de rentrer un peu dans la paroisse, de rentrer un peu dans la messe. Alors chacun va trouver son chemin, peu importe celui qui sera pris. Mais en tout cas, c'est de permettre à des personnes qui sont exclues aujourd'hui d'aller vers l'Église. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces équipes fraternelles sont des lieux de fraternité. Le mot fraternel est... Et pas,
ça s'appelle les équipes fraternelles.
Ouais, c'est le nom, hein, ce sont les équipes fraternelles. Ouais. Et ce mot fraternité a vraiment du sens dans notre vie, entre nous. C'est-à-dire qu'il y a une grande confiance qui s'est établie dans la durée, hein, puisque bon, pour certains, on est là vraiment depuis longtemps ensemble, avec toujours une capacité de faire venir d'autres personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et dans l'expérience que je peux en avoir, je propose très souvent à ceux qui voudraient démarrer un groupe, voudraient se mettre en lien avec des personnes qui vivent des choses différentes de ce qu'elles sont elles-mêmes, de venir nous rencontrer. Et donc, ou alors de venir moi-même rencontrer ces personnes, mais toujours avec des personnes qui vivent des situations différentes de la mienne, afin qu'il y ait vraiment des échanges qui puissent avoir lieu dans toute la complexité de ce que l'on peut être, mais également dans toute la simplicité que l'Évangile nous permet d'avoir ensemble. Alors je crois qu'il y a trois temps dans ces équipes, je ne voudrais pas être trop long. Un temps de partage, un temps autour de l'Évangile, un temps de prière d'intention ou d'action de grâce, et un temps de convivialité. Et le temps de convivialité est aussi important, je dirais, que les deux autres, parce que c'est celui qui nous permet d'être ensemble, de vivre des choses fortes également, et puis peut-être un peu de décompresser à partir de choses très, très, très fortes qui ont pu être dites et ce qui arrive pratiquement à chaque réunion. Alors, je peux dire que c'est devenu, pour les uns comme pour les autres, des lieux nécessaires. Je crois que chacun y nourrit sa foi de façon extrêmement profonde et que ça, c'est quelque chose de très, très important. Et on voit bien comment cette parole de Dieu, elle est vécue et elle peut être expliquée par chacun. Mais en fait, elle nous rejoint tous. Alors j'avais trouvé quelques mots intéressants dans ce qui a été dit, hein. C'est vrai, la confiance. Genre, la confiance entre nous, c'est vraiment quelque chose qui permet de rebondir. Puis peut-être pour finir, je dirais que moi, très souvent, ces groupes, ils m'inspirent dans les homélies que je peux être amené à faire. Là, récemment, j'ai pu travailler sur Zachée et j'ai dit, voilà, je vais vous donner maintenant un témoignage, celui des théologiens de l'équipe fraternelle de la ville où j'habite. Et je crois que la formule est restée. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est resté, mais en tout cas, la formule est restée. Voilà, merci.
Merci bien. Voilà, il y a une expérience, il y en a d'autres certainement. Attendez, on va faire circuler la parole. pour de ces groupes fraternels ou des groupes d'échange. Peut-être, Jean-Claude, tu veux dire quelque chose aussi sur la constitution de ces groupes ou... Tu en as déjà parlé un petit peu. Oui. Oui. Il y a une question là, Paul.
C'est pas une question, hein?
Oui, mais tu as le droit.
Donc, Paul de Montgolfier, jésuite, qui actuellement m'occupe d'un service particulier de la Compagnie de Jésus, qui est le service des réfugiés. Des réfugiés, vous entendez parler, hein, ça fait bien l'actualité. Il y a beaucoup de réfugiés en France, moins que l'on le fantasme, finalement. Parmi ces réfugiés, il y a les demandeurs d'asile, donc des personnes qui demandent la protection de la France parce que leur vie était en danger dans leur pays. La France a signé une convention. Malheureusement, elle n'a pas les moyens de ses ambitions et ces personnes qui devraient, selon la Convention, être hébergées, nourries, instruites dans la langue du pays pendant toute la durée de leur procédure, le temps que l'État réponde à leurs demandes, eh bien la France ne le fait pas très bien et beaucoup de demandeurs d'asile restent à la rue, pratiquement les deux tiers, plus de deux tiers. Alors, la place de ces pauvres parmi les pauvres que sont les demandeurs d'asile à la rue, eh bien, c'est d'accueillir chez soi. Et nous proposons à des familles et à des communautés religieuses d'accueillir chez elles un demandeur d'asile. Alors vous allez tout de suite faire des bons en disant ce sont des héros, etc. Eh bien, on a essayé de rendre la chose, c'est impossible de le rendre possible, en demandant, en allégeant le plus possible les choses, et on demande que ce soit pour un mois maximum. Donc le fait que ce soit pour une durée courte, rend la chose possible pour beaucoup de gens qui ont une pièce libre chez eux, mais qui en ont besoin pendant les vacances parce que les enfants ou les petits-enfants reviennent, etc. Bon. Et puis on leur dit, vous n'êtes pas chargé de résoudre les problèmes des demandeurs d'asile. Vous avez une seule mission, c'est le sourire. C'est le sourire, c'est-à-dire une relation amicale et confiante. Pour reprendre un mot qui a été mis. Parce que ce dont souffrent le plus les demandeurs d'asile qui sont affrontés à l'administration française, c'est leur parole est mise en doute. On ne veut pas les croire. Une dame a fui son pays parce qu'elle était menacée de toutes sortes de sévices. Eh bien, elle ne peut pas en parler facilement. Elle n'a pas de preuves. Et donc, on ne la croit pas. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un de ces demandeurs d'asile qui avait obtenu le statut de réfugié. Alors, je lui ai dit, tu es heureux ? Il me dit, oui, je suis content. Mais surtout, je suis content parce que ils ont reconnu que je n'étais pas un menteur. Et ça a été très impressionné. Alors, recevoir, laisser une place aux pauvres chez soi permet à ces personnes en grande difficulté de retrouver un peu de dynamisme, un peu de confiance en lui-même parce que enfin quelqu'un les regarde d'une manière sympathique, bienveillante. Mais ça a aussi un effet, un autre effet, c'est sur les personnes qui accueillent. les personnes qui accueillent, comme beaucoup d'entre nous, on se dit, oulala, est-ce que je ne vais pas introduire le loup dans la bergerie? Est-ce que l'argenterie de la grand-mère ne va pas être en danger? Ou, etc. Bon, en fait, ce n'est absolument pas du tout le cas. Et non seulement ça permet à toutes ces personnes qui accueillent de changer leur regard sur ces pauvres parmi les pauvres, mais même quelquefois, ils reçoivent des choses inattendues. Je citerai juste, pour ne pas être trop long, une dame qui disait, ben voilà, j'ai eu une journée épouvantable. D'abord, il pleuvait, et puis les transports en commun, il y a eu des problèmes, et puis ensuite, au boulot, ambiance exécrable, bon, voilà, voilà. Tous les ennuis, elle rentre chez elle complètement épuisée, et en entrant chez elle, elle accueillait un demandeur d'asile, elle sent une odeur un peu particulière, inattendue, donc elle va à la cuisine, et là, elle trouve le demandeur d'asile assis par terre, qui avait cuisiné quelque chose de son pays, et qui lui dit « Welcome, je vous invite à partager le repas ». Et elle a dit « Eh bien, se faire accueillir chez soi, c'est une expérience que je souhaite à beaucoup. »
Merci. Merci, Paul. Voilà. Jean-Claude voulait réagir à ça. Enfin, peut-être pas à ça, d'ailleurs.
Non, c'est pas exactement ce que disait Paul, mais je voudrais souligner quelque chose qui me paraît très important, c'est que souvent on a la volonté de réunir des gens pour les faire parler, et on y réussit, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à faire parler les gens, parce que les gens qui ont des difficultés, ils ont finalement tendance à parler, avec le problème qu'on peut aussi tomber dans la plainte et le ressassement de la plainte, et finalement, sans le vouloir, on enferme les gens dans leurs propres paroles. En fait, l'ambition est beaucoup plus grande. Elle n'est pas du tout de faire parler des gens, elle n'est pas de faire des groupes dans l'église ou ailleurs, elle est de permettre à des gens de nous enseigner, vraiment de nous enseigner. C'est-à-dire que nous ne nous contentions pas évidemment de faire pour, mais pas non plus avec. Pas non plus avec. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire avec. Finalement, on fait pour. Non, c'est faire à partir d'eux. À partir d'eux, c'est-à-dire prendre à partir de ce qu'ils portent dans leur vie, à partir de leur expérience de vie, à partir de leurs paroles peut-être, de nous laisser enseigner, de nous laisser transformer, pas seulement de manière superficielle, mais y compris dans nos pastorales. Les catéchumènes qui ne savent ni lire ni écrire, il y en a. Et comment on fait? Comment on se laisse enseigner pour leur permettre l'accès au sacrement? C'est pas si évident. En tout cas, si c'est le catéchuménat tel qu'il est fait, en tout cas dans la paroisse que je connais, eh bien ce n'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que ceux qui accompagnent font le travail, mais le catéchuménat tel qu'il est fait, tel qu'il est conçu, tel qu'il est ordonné par les autorités du diocèse dont je fais partie, eh bien c'est pas possible. Donc oui, ça peut mener loin. C'est pas seulement dans mon quartier, dans ma montée d'escalier, dans mon petit bout de paroisse, c'est au niveau de l'Église, au niveau de la société, nous décider à ce que nous nous laissions enseigner, et autrement dit, à ce que nous reconnaissions dans ceux qui ont le plus de difficultés, dans ceux qui sont enfermés dans le mutisme de la misère, qu'ils ont une parole qui peut féconder notre Église ou notre société. Et c'est ça qui n'est pas facile. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, c'est pas facile. C'est très facile de faire parler les gens. Les gens, ils parlent tout seuls, il n'y a pas besoin de les faire parler. Ce qui est difficile, c'est d'entendre. Et c'est de s'attendre à entendre des choses que nous n'attendions pas. Et ensuite, c'est d'y obéir. Pas au sens du petit garçon qui obéit à sa maman, hein, mais c'est d'y obéir. Alors, est-ce que la société, est-ce que notre Église, c'est-à-dire nous autres, sommes prêts à obéir aux plus pauvres parmi les nôtres pour suivre les chemins de Jésus? Ça, c'est une question que je me pose à moi-même. Si.
Ouais, Geneviève voulait intervenir.
Alors, moi, j'ai ressenti un certain malaise à votre intervention. Je ne sais pas si je vais bien savoir expliquer mon malaise. Vous dites qu'ils ne se sentent pas crus. Mais les pauvres non plus ne se sentent pas crus. On a des histoires qui deviennent quelquefois tellement compliquées qu'on ne sait plus les raconter et qu'on ne peut pas apporter la preuve de ce qu'on nous a dit. C'est parole contre parole. Je ne vous donnerai pas les papiers pour vous permettre d'aller demander un secours. Ben, vous ne pouvez pas prouver qu'on vous l'a dit. Il y a une espèce de concurrence qui peut être très malsaine. Quand j'étais à la banque alimentaire, un jour quelqu'un m'a dit « Vous ne pouvez pas savoir ce que vivent les demandeurs d'asile. » Mais lui ne savait pas ce que moi je vivais. Donc cette concurrence n'est pas très bonne. Et puis là où j'étais, on a résolu un beau jour le problème, c'est qu'on a abaissé de 200 euros pour avoir le droit à la banque alimentaire. Je n'y ai plus le droit, les demandeurs d'asile y ont le droit. Et pour y avoir été, je sais que ça ne vous nourrit pas. Non, pas ça vous apporte une aide. Je pense à Juan Claudius, avec qui je me suis liée, et avec sa femme, Gisèle. Et j'ai vu toute une évolution. Et un jour, avec un sourire épanoui, il m'a dit... Maintenant, nous sommes autonomes, c'est-à-dire on a un logement dont on paie le loyer parce qu'on a un travail. Mais Juan Claudius, il est arrivé en France avec des diplômes. Il avait été en fac dans son pays avant de venir. Quoi que vous fassiez pour nous, je ne sais pas si ça a du sens pour beaucoup, moi j'ai échoué le certificat d'études. Donc, jamais je ne pourrai avoir un travail qui est proposé à quelqu'un qui a été en fac. Enfin, voilà. Bon, j'exprime un peu mal ce que je ressens, mais voilà. Il faut faire attention à pas... Parce qu'on peut aussi nous imposer la grande détresse, par exemple, lorsqu'il y a un handicap mental. Où là aussi, il y a une très grande détresse. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une détresse quand il y a des enfants handicapés mentaux que les pauvres, je ne sais pas comment dire, pour ne pas nous mettre en concurrence, on a chacun notre place et on a besoin d'être tous aidés. Voilà. Donc je ne sais pas si j'exprime bien.
Laurence, tu veux dire quelque chose? Oui.
Elle a raison, Geneviève, dans ce qu'elle dit. Parce que les plus pauvres, ils ont besoin de dignité. Mais ils ont une dignité. J'ai rencontré des gens, moi, autour de moi, qui sont encore plus en difficulté que moi. Mais quand ils nous reçoivent dans leur maison, eh ben, ils n'ont peut-être pas grand-chose à nous offrir, mais ils ont beaucoup d'amour. Et ça, c'est important. C'est la dignité, surtout. Parce qu'on oublie les plus pauvres, ils sont rien, c'est faux. Voilà, parce que les plus pauvres, ils ont droit à la dignité comme les autres. Ce sont des citoyens comme les autres. Ils ont droit d'aller voter comme les autres. Ce sont des citoyens à part entière, mais souvent on oublie, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils vivent des difficultés ou ils vont dans les banques alimentaires ou autres. Mais ça, c'est bien, mais ils ont une dignité, parce que moi je dis, on est des citoyens comme les autres. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On existe à part entière. Et souvent, il y a les gens, ils oublient que les plus pauvres, ils ont une dignité. Et dans l'Église, c'est ça qu'on veut dire aussi. Hein. C'est ça que le Christ aussi, parce que le Christ était parmi les plus pauvres. Il leur a rendu la dignité aux plus pauvres en allant vers eux et en vivant parmi eux. Hein. C'est beau. Et voilà. C'est ça que je veux dire. La dignité,
comment vous dire, c'est important. On existe. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Et puis les plus pauvres, parmi leurs expériences, parmi ce qu'ils vivent, eh ben souvent, ils disent des belles choses. Malgré les épreuves, ben il y en a, c'est dur de rester debout dans les moments difficiles. Mais moi, je sais que la foi m'a porté, m'a aidé, les prières m'ont aidé à tenir debout. Parce que je me disais, ben, je suis pas seule, Dieu est avec moi, ça aide ça aussi. Et puis lui, il me respecte. Et quand je rencontre des gens qui me disent, mais nous, on n'en peut plus, eh ben je leur dis, Dieu vous porte. Il vous porte sur ses épaules. Mais quelquefois, c'est nous aussi qui portons les autres. C'est ça que j'ai appris à placer les paroles des pauvres. À mieux connaître les autres, à mieux écouter, mais aussi à me dire, eh ben, même si je n'ai pas grand-chose à donner, s'il y a quelqu'un encore de plus petit que moi, eh ben, je dois l'aider et le porter aussi. C'est ça qui est important.
Laure.
Dans la suite de ce qu'a dit Geneviève tout à l'heure, ça me faisait penser à ce que nous avons vécu à Lourdes au mois de mai. Elle disait ne pas mettre en concurrence les différentes formes de pauvreté. Et je crois qu'à Lourdes, on a fait juste l'inverse. On les a mis en harmonie. On a célébré nos différences. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vais donner quelques petits exemples. Vous voyez comment est construite la basilique Saint-Pédis, donc ce grand ovale, avec au centre l'autel. Tout près de l'autel, il y avait des personnes en fauteuil, malades ou en situation de handicap. Il y avait les groupes Place et Parole des Pauvres qui étaient là devant aussi. Et puis pendant les célébrations liturgiques, il y avait les mots qui étaient dits par oral, qui étaient écrits, pour que les personnes qui étaient déficientes auditives puissent les lire éventuellement. Et puis il y avait dans l'assemblée, à plusieurs endroits, des personnes qui parlaient avec les mains. Et puis il y avait aussi une voix off, quand il y avait un jeu scénique ou un geste qui expliquait pour les personnes déficientes visuelles qu'est-ce qui se passait. Et là, du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toutes les formes de pauvreté, de handicap, il y a une communion les uns avec les autres par ces moyens qui sont mis en œuvre, qui libèrent la créativité. Et comme chacun peut recevoir ce qui est donné, bien entre dans la détente et accueille les autres. Et on est invité et emporté dans cet élan d'ouverture et d'attention à l'autre et de sollicitude mutuelle. Et ça, ça crée un climat de joie et de communion. Du coup, les différences sont plus mises en concurrence, mais en harmonie.
Merci. Voilà, on a encore du temps un peu hein, pour échanger. Voilà. Oui, pardon.
Oui, je voudrais juste dire un témoignage. Il y a quelques années, j'ai fondé sur ma paroisse, enfin, j'ai créé le groupe Les Amis de la Rue. Et ce qui a été vraiment essentiel pour moi, ça a été donc de pouvoir justement, c'était très important ce qu'a dit Laurence sur la dignité. C'est le temps que j'ai commencé d'abord à prendre du temps pour les écouter et chacun me racontait leur vie. Et j'ai découvert que tous à la base, c'est absolument incroyable que ce soit un jeune ou quelqu'un qui était à la rue depuis 15 ans, etc., avait vécu un abandon, que ce soit parental, de travail, etc. Bon, bref. Et vraiment, donc, prendre du temps pour les écouter. Et aussi, une des premières choses que j'apprends à quelqu'un qui veut rentrer dans le groupe, je lui dis, quand tu lui parles, ne te penche pas sur lui. Demande-lui la permission. Je peux m'asseoir à côté de toi. C'est comme si quelqu'un t'ouvre la porte pour te faire entrer chez lui. Ça, c'est très important. Et alors, à ce moment-là, tu lui demandes la permission. Je peux m'asseoir à côté de toi? Et oui. Et à ce moment-là, la relation, elle se crée. Parce que du coup, je suis dans une relation d'égalité avec lui et de respect. Hein, ça, c'est quelque chose de très important. Et aussi, ce qui a été aussi important, c'est de fêter leur anniversaire. À chaque anniversaire, dans la paroisse, dans une salle paroissiale, on fait une fête. J'avais un diacre qui jouait de la guitare et tout, et des amis qui apportaient des gâteaux et tout, mais ils retrouvaient leur joie de vivre et leur dignité. Mais oui, j'existe, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis aussi, j'ai découvert, je vais donner juste un dernier exemple, ce qui était très important un jour, il y avait une femme, Mimi, qui vivait à la rue depuis 15 ans. Et malgré toutes les démarches que je pouvais faire pour l'aider, écoute, regarde, il y a une association qui va peut-être pouvoir t'héberger, quoi que ce soit. Non, pas question. La rue, c'était sa vie, etc. Et puis, alors donc là, il faut voir qu'il y a un grand travail. Plus la personne, elle est à la rue depuis très, très, très longtemps, plus c'est dur pour la faire en sortir. En 4 ans, j'ai réussi à en faire sortir 4, mais ça faisait que de 6 mois ou un an qu'ils étaient à la rue. Et effectivement, là, le travail était beaucoup plus facile pour les accompagner, hein, les sortir. Et un jour, Mimi, non seulement elle me parlait, et puis un jour, elle m'écoute, elle me dit « Mais tu vas pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « J'ai pas reçu ma pension d'invalidité, là, j'ai plus rien. » Elle me sort un billet de 10 euros. Elle me dit, regarde, tiens, allez, je te le donne. Je dis, oui, Mimi, merci. Et puis 48 heures après, bien sûr, je le lui ai rendu en lui en donnant un petit peu plus. Mais j'ai trouvé ça formidable de sa part. Et elle a fini un jour par accepter, oui, que les petits frères des pauvres l'accueillent. Mais bon, pas hasard, elle est morte juste un petit peu après. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important. J'ai découvert quand Mimi, elle m'a donné de l'argent alors que j'étais dans une situation très ennuyeuse. J'aurais jamais cru aller lui demander à elle de l'argent. Mais c'est elle qui m'a fait parler, qui m'a écoutée. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Enfin vraiment, ça a été une expérience pour moi formidable.
Merci. Voilà. On a fait plusieurs fois allusion... Et Laure en a parlé en disant cette parole ou cette rencontre avec les personnes les plus pauvres, c'est une source pour la foi. Alors, c'est aussi une des grandes découvertes qu'on a faites aussi à l'occasion de la démarche Diaconia 2013. Comment cette rencontre, cette parole, nous ramène à notre propre foi ou nous font découvrir des visages inattendus de Dieu. Voilà. Alors, peut-être on a... des expériences de ce genre qu'on pourrait redire. Je retiens notamment ce que disait Laure tout à l'heure. Cette manière de vivre la relation conduit au plus fondamental de la vie humaine, à ce qui éveille la vie et l'alimente en lui donnant un sens. Voilà. Quelle expérience avons-nous de cela ? Qu'est-ce que cette rencontre des personnes qui ont vécu la pauvreté, la précarité, dans leurs paroles, dans leur expérience, dans leur manière de témoigner de la foi, à quoi me renvoie cette parole dans ma propre expérience de foi. Voilà. Et ce qui est vrai pour moi est vrai aussi pour l'Église, d'une certaine façon, pour le groupe, pour la paroisse, pour tous les groupes où nous vivons. Voilà. Peut-être, se redire cette démarche inverse, on pourrait dire, voilà, d'être, comme disait Jean-Claude, à l'écoute et se laisser enseigner par cette rencontre sur notre foi elle-même. Oui.
Bonsoir, je m'appelle Marie-Noëlle Nachard. Moi, l'Église, la foi, elle m'a permis de sortir de mon lit de souffrance. Elle m'a permis de sortir de mon lit de souffrance. Et l'Église, c'était pour moi, c'était la maison de Dieu et la maison de famille. Et ça m'a permis aussi de me réfugier, autant que trop de problèmes et que personne ne me croyait quand je parlais. Et j'avais besoin de parler, mais j'avais pas la parole. Et je souffrais autant de ma santé comme autant de mes enfants qu'ils étaient séparés de moi. Et personne ne m'écoutait. Il y en a qui me prenaient comme une parano, comme il y en a qui me prenaient la souffrance, la déprime, elle était à mon visage. On me prenait comme une personne inconsciente. Mais le seul qui m'avait entendu, c'était vraiment, croyez-moi, c'était le Christ et c'était la Sainte Vierge et c'était Marie-Yvonne et Jean-Claude. Alors que quand j'ai connu le diaconie, ma vie, elle a changé complètement. Parce que je sentais aussi que j'étais pas rejetée et que j'avais un lieu de famille ou que j'avais une protection, que quoi ce soit, si un jour je n'existais pas, ou dans ma maladie, ou dans mon lit, j'aurais un problème, qu'il y aurait qui penser à moi en disant, tiens, on n'a pas vu Marie-Noël, ou est-ce qu'elle va mieux, ou qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui lui arrive. Et ça, j'ai senti vraiment une force en moi, de sentir que je ne suis plus seule et que j'ai une famille qui pourra demander un jour, qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'il faut qu'on prévienne ses enfants. Parce que j'ai pas envie de partir et mourir seule, ou bien de avoir quel que soit et que personne n'aurait su ou frapper à la porte en disant qu'est-ce qu'elle devient. Merci.
Merci. Merci beaucoup. J'ai frappé dans beaucoup d'expressions. Voilà, oui, il y a encore. Allons-y. Oui, il y a deux questions ici.
Bonsoir, je m'appelle Alice, je suis animatrice dans une délégation du Secours catholique dans la Petite Couronne. En fait, moi, j'ai une parole qui... Alors, en plus, il se trouve que dans ma délégation, je suis référente sur la vie spirituelle et fraternelle, gros programme. Et il y a une parole, en fait, moi, que j'aimerais partager, parce que pour moi, ça a été un déclic. C'est, en fait, ça vient d'un saint qui s'appelle Saint Laurent, et qui, un jour, a dit que les pauvres étaient la richesse de l'Église. Et... pour moi, c'était une révélation. Bon, et du coup, au quotidien, dans mon travail, ça résonne tous les jours. Voilà.
Merci. Alors, on va laisser au fond, voilà, puis on revient après. On essaye de tourner. Ceux qui sont au fond, on les voit moins, alors il faut qu'ils lèvent la main.
Voilà, c'est très rapidement. Je voulais dire à Marcel, qui nous a décrit l'église idéale, enfin le lieu idéal pour les célébrations. Moi, j'ai longtemps été paroissien de Saint-François de Molitor à Paris. Et c'est une église qui est construite comme ça, en fait, et avec un autel au centre et l'assemblée en rond autour de l'autel. Et de fait, ça marche. Et ce qui marche, c'est qu'effectivement, on se voit, on se regarde les uns les autres. Et du coup, l'assemblée dominicale n'a plus le même sens parce qu'on n'est pas... en randonnions les uns derrière les autres, mais on est en assemblée vraiment les uns avec les autres et on se reconnaît dimanche après dimanche. Et alors je me disais, mais alors quelle est la, enfin, parfois il y a des personnes en situation de précarité qui viennent à la messe et systématiquement elles restent à la périphérie. On n'imagine pas. Ben, bon, il se trouve que c'est une paroisse du 16e arrondissement. Voilà. Et je me pose la question, est-ce que... d'abord, est-ce que le groupe Place et Parole des Pauvres se voit une autre place dans l'Église que la dernière? Et est-ce qu'on peut se poser cette question, enfin, de la participation des pauvres aux assemblées dominicale, je dirais, pour enrichir les assemblées dominicales.
Oui, pendant qu'il y a micro, peut-être Elisabeth ou Daniel veulent rajouter quelque chose.
Ah, voilà. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Alain, moi je fais partie d'une équipe d'animation paroissiale dans les Yvelines. J'ai bien aimé ce qu'a dit le diacre, j'irai peut-être lui parler deux minutes tout à l'heure sur les équipes fraternelles.
Voilà, vous pouvez lui demander les renseignements.
Voilà, mais j'ai une question. Une fois que, là, on est en face de nous, des anciens pauvres, qui sont riches, hein, qui nous ont apporté beaucoup ce soir, est-ce qu'il ne faudrait pas que certains d'entre eux soient cooptés par nos prêtres ou nos conseils pastoraux afin d'appartenir à ces conseils et de pouvoir rayonner au niveau de la paroisse?
Ça existe, hein. Ça se fait déjà dans certains... Il y a certaines paroisses ou certains groupes qui ont... Je ne sais pas, enfin, il y en a qui savent mieux ça mieux que moi. Hein. Daniel, oui.
Je pense que si ça existe, c'est relativement rare, voire assez rarissime. Et je pense que on est au cœur de la question, c'est-à-dire
on a
vécu tout ça à Lourdes. Il y a eu ce cheminement de diaconia, et aujourd'hui finalement, c'est quoi le pas suivant à faire? Et peut-être qu'effectivement le pas suivant, c'est de réfléchir comment est-ce que les uns et les autres peuvent vraiment trouver leur place pour qu'on ait, ce que disait Laure tout à l'heure, une église hospitalière. Une église ouverte, attentive à tous, appelant chacun, désireuse de recevoir les dons de chacun. Je crois que c'est vraiment un enjeu pour notre église. Et puis, puisque la question était autour de ce que ça nous apporte au plan de la foi, ce compagnonnage avec les très pauvres, moi je dirais là-dessus, de cette expérience que j'ai pu vivre dans la communauté de Magdala depuis une vingtaine d'années, le fait que, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que quand on arrive comme ça pour des rencontres, on vient tous avec nos blessures, on est tous un peu cabossés avec des trucs qui vont pas, on se dit mais on n'y arrivera jamais. Et chaque fois qu'on prend le temps de partager ensemble, il y a des chemins qui s'ouvrent qui sont différents. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise majeure au niveau social, à la fois au niveau de notre pays, mais de manière plus large. Le rêve, moi, que je ferais à la suite de Diaconia, c'est qu'on prenne vraiment au sérieux ce qu'on a vécu et qu'on se dise, mais comment est-ce qu'on fait pour se rassembler, pour continuer à réfléchir ensemble, pour justement trouver des solutions. Chaque fois qu'on arrive à le faire, on trouve des manières neuves de se sortir de choses dont on pensait que c'était insurmontable. Moi, c'est ce que m'apprennent les plus pauvres, et c'est ce qui nous a permis déjà de faire ce qu'on a fait à Lourdes, et puis pendant ces 3 ans, s'il n'y avait pas eu le groupe Placé Parole des Pauvres, on n'aurait jamais vécu ça. Et si on l'a vécu, c'est parce qu'à chaque fois qu'on s'est rencontrés, 27 fois, disait Jean-Claude, 27 journées de travail, à chaque fois, on est ressorti de là en se disant « on va y arriver ». Parce qu'il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose, une force énorme qui se partage dans ce groupe. Et c'est cette force-là qu'on a essayé de partager à tous. Et c'est cette force-là qu'on voudrait partager à l'Église aujourd'hui, continuer à la partager.
Merci.
Moi, je voudrais répondre aussi une chose. L'Église, on manque de prêtres. Et moi, je sais que... si j'ai rencontré le Carmon et le père Joseph Rosinski, c'est grâce au prêtre qui venait à ma rencontre. Le père Mathieu, il venait souvent chez moi. Et maintenant, on manque de prêtres. Mais si l'Église voulait un peu au moins se familiariser, il y a peut-être pas assez de prêtres, mais il y a des religieuses qui sont pas obligées de faire la femme de ménage en église aussi. Je crois qu'elle pourrait prendre des responsabilités au sein de l'église, plus qu'elles ne font, et plus près des personnes, puisque nos églises se ferment, nos prêtres on en a beaucoup moins, nos religieuses viendraient plus auprès des personnes, plus de ça, au moins ce serait bien qu'elle serve à quelque chose. Bon, je défends la femme parce que je suis une femme, hein, mais bon, ça c'est aussi je trouve que bon, voilà, peut-être que le pape François ira dans ce sens là
mais... J'avais envie de te dire, Marcel, toi aussi, tu es missionnaire. Voilà. Tu as aussi ton rôle de missionnaire auprès de ceux que tu connais dans ta paroisse. Il y avait Pierre, oui.
Voilà, Pierre du Sapel. Je voulais peut-être dire deux choses qui m'ont frappé, puis ça revient. La première chose, c'est qu'on ne peut pas constituer des groupes si on ne va pas visiter les personnes. Si on n'a pas des relations... pendant des mois, des années, une relation de confiance qui se tisse, qui se casse, qui se renoue. Je crois que c'est très important que les chrétiens se déplacent et se mettent en fragilité. On n'est jamais à égalité. Et si on veut que l'autre prenne la parole, il faut se mettre en fragilité, être plus bas. Enfin, le Christ nous l'a montré. On ne peut pas se mettre au même niveau que l'autre. J'aime beaucoup Gilles Bocarn qui dit « Et toi, je te hisserai devant moi comme la proue d'un navire. » Voilà. Si on aime, on met l'autre plus haut que soi, forcément. Alors ça suppose qu'on visite, on aille dans les familles, on franchisse les portes, qu'on accepte de s'asseoir là où nous disent, qu'on accepte de boire les cafés qu'ils nous offrent. Parce que c'est ça la dignité, c'est avoir quelque chose à donner. Et on l'a bien dit à Diaconia. Hein. Personne n'est assez pauvre pour
n'avoir rien à dire.
N'avoir rien à donner ou à dire. Voilà. Et donc créer les conditions que le plus pauvre puisse donner, c'est se mettre en fragilité, enfin, c'est accepter d'être nomade, c'est partir et surtout visiter les personnes. Ça, moi, je crois pas à des groupes, aller de groupe en groupe, aller de rassemblement en rassemblement, s'il n'y a pas un travail de fond, patient, humble, et de rencontrer les gens chez eux, quoi. Voilà. Le deuxième élément, c'est que vous aviez posé la question, qu'est-ce que vous avez appris? Moi, j'ai appris que la foi, c'était une question de vie ou de mort, et pas un truc en plus culturel, quoi. Enfin, moi, c'est ça que j'ai appris des familles les plus pauvres, c'est que c'est pas une espèce de luxe. Hein. On est bien et en plus, on est croyant, mais que la foi, c'est lié à la vie et à la mort. Et souvent, il y a des personnes qui m'ont dit, moi, si j'étais pas croyant, je serais déjà mort. Voilà. Et donc, il y a une espèce de radicalité. Là, on peut apprendre. Il y a de quoi apprendre. On a du chemin. Un jour, dans un groupe de prière, il y a une animatrice qui dit, ben voilà, on va prier pour qu'il y ait moins de guerre. Et alors, il y a quelqu'un qui s'est levé, une famille du Carmont, qui s'est levé en disant non, pour qu'il y ait plus de guerre du tout. Plus de guerre du tout. Et elle avait raison. Et c'est elle qui avait raison. Mais pour ce faire, ça veut dire des mois, des années de confiance. Voilà. Deuxième chose que je voulais dire, moi je crois qu'il n'y a pas de place dans l'Église si on ne commente pas la parole de Dieu. Avoir une parole sur la parole de Dieu. Et là, les familles les plus pauvres nous devancent. Et de loin. Juste un exemple. Le roi qui invite au festin, les riches ne veulent pas venir, ils sont trop occupés. Voilà, et on envoie les serviteurs forcer les gens à rentrer. Et j'étais avec un groupe de jeunes, et je dis, vous êtes où dans la parabole? Et les jeunes me disent, quoi, nous? Mais on est le roi. On est le roi. Parce que personne ne veut se salir les mains à venir dans notre cité. Ça veut dire que moi, j'avais jamais pensé ça, et jamais je n'ai lu ça. Et croyez-moi, on a vraiment de quoi apprendre. Et c'est heureux. Et c'est joyeux.
Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête, malheureusement. Mais peut-être pour reprendre l'une ou l'autre expérience qui a été dite, je suis frappé par l'espèce d'analogie entre les différentes expériences que vous avez soulignées. Accueillir chez soi, bon, alors Paul a parlé d'accueillir chez soi des réfugiés, ou accueillir quelqu'un dans un groupe. Écouter quelqu'un qu'on accueille, c'est en fait se laisser accueillir par lui. C'est l'inverse qui se passe. Se laisser enseigner, disait Jean-Claude. C'est-à-dire devenir l'invité de son invité, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui se retourne dans un accueil d'une parole qui est celle étrange et dérangeante des pauvres. Nous allons maintenant terminer cette soirée. Je signale, Elisabeth me propose de dire ça, si vous voulez entendre d'autres paroles des pauvres, notamment des rassemblements Diaconia, il y a des DVD que vous pouvez éventuellement acquérir auprès d'elle. « Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à dire », c'est le DVD, je pense, du rassemblement. Voilà. Diaconia, et puis une autre, parole de Dieu, parole de vie. Je pense que ce sont des groupes du SAPEL, des prisonniers. Ce sont des témoignages dont une partie ont été donnés lors du rassemblement. Là aussi, si vous voulez les acquérir, adressez-vous à Elisabeth. Je remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Geneviève, Marcel et Laurence, et puis Jean-Claude et Laure pour leur participation, et puis aussi vous tous. Merci beaucoup.